Place Info.
Une deuxième journée beaucoup plus calme pour cet anniversaire. Un an de gilets jaunes après des violences constatées hier à Paris notamment. Le débat prend un tour politique entre la majorité et l'opposition. La majorité en opération déminage Bercy, l'âge du lest notamment sur la question de la dette des hôpitaux. Est-ce la crainte d'une convergence des luttes? Une partie de la majorité réclame en tout cas une grande conférence sociale. Et puis nous reviendrons sur le mea culpa inédit de la ministre de la Justice sur les féminicides, Nicole Belloubet, qui reconnaît que le gouvernement peut mieux faire. On en débat avec nos informés de ce soir. Jérôme Chapuis, rédacteur en chef à La Croix. Bonsoir.
Bonsoir.
Jérôme, à vos côtés, Céline Boisson, communicante, directrice associée de l'agence New. Bonsoir. Jean-Baptiste Marteau, journaliste politique chez France Télévisions, et Maude Guimin, journaliste indépendante et documentariste, auteur notamment d'un livre sur les Bogdanov.
Le mystère Bogdanov, exactement.
Absolument. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la télé, Canal 27 de la TNT. Donc une deuxième journée beaucoup plus calme pour les Gilets jaunes. En ce dimanche, le débat se déplace sur le terrain politique à l'image de cet échange entre Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, et Jean-Luc Mélenchon, le patron des Insoumis.
Hier, ce qu'on a vu, c'est effectivement peu de manifestants, mais par contre des brutes, des voyous, qui étaient venus pour se battre, pour en découdre avec les forces, pour empêcher les pompiers d'agir et de préserver quelquefois des vies.
Je pense qu'au lieu d'insulter les gens, le ministre de l'Intérieur, qui a quand même un lourd passif maintenant à son actif, 22 personnes éborgnées, 5 mains arrachées.
Et vous aviez demandé sa démission ici il y a quelques mois.
Évidemment. L'intention du gouvernement et de M. Macron, c'est de faire tellement peur que les gens ne disent plus rien. Donc ce qu'il compte faire, c'est une sorte de redéploiement autoritaire de l'autorité de l'État.
Échange par plateau interposé, on le précise, qui date d'aujourd'hui. Ce dimanche, important de le préciser, Jérôme Chapuis, parce que cet échange, on aurait pu l'avoir il y a pile un an.
Exactement, on a le sentiment que pas grand-chose n'a bougé, si ce n'est qu'il y a un an, il y avait, selon les décomptes officiels, 280 000 personnes dans la rue, 28 000 hier, mais il ne faut pas se tromper, c'est un chiffre qui est en trompe-l'œil, parce que en réalité, qu'est-ce que c'est que le mouvement des Gilets jaunes? C'est le mouvement de la France invisible. Et une bonne partie de ces Français qui manifestaient en masse il y a un an, ne sont plus dans la rue aujourd'hui. Ceux qui sont restés, ce sont ceux qui sont souvent effectivement les plus violents, les plus déterminés, ceux qui effectivement estiment que la violence politique est sans doute justifiée. Mais ceux qui n'ont pas manifesté ou ceux qui ont peut-être trouvé d'autres formes de contestation, on ne les voit plus. Mais les ingrédients de cette crise, ils sont toujours là.
Maude Guillaumin, Jérôme Chapuis, ce qu'il dit, cette colère, elle est là, on ne la voit pas, mais éventuellement elle peut revenir en l'occurrence. C'est ce qu'il faut, c'est ce que vous gardez vous aussi un an après les Gilets jaunes, il faut se méfier des chiffres.
Je pense que la France démoralisée, elle reste là. Il y a eu des mesures gouvernementales qui ont essayé de répondre, et pourtant on voit bien dans les enquêtes d'opinion, les Français restent encore méfiants, ils parlent encore de leurs difficultés. On a beau montrer les signaux positifs avec une croissance qui augmente, qui passe au vert, dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien, c'est les difficultés, la difficulté de payer son chauffage, la difficulté de se déplacer. N'oublions pas, ça reste encore vraiment des problèmes du quotidien qu'avait été le fer de lance pour lancer le mouvement. Et ces problèmes, ils sont toujours là et je pense que le gouvernement n'a pas répondu, peut-être parce qu'il faut encore, et on en parlera un peu plus tard avec cette conférence, mais le terreau négatif reste là.
Jean-Baptiste Marteau, on entend ce que dit Maude Guillaumin, la colère est toujours là. Est-ce que du côté du gouvernement, on craint une résurgence de ce mouvement?
Effectivement, tous les ingrédients de la colère, ils sont toujours là. Il y a des gros problèmes de pouvoir d'achat. On s'est rendu compte avec cette crise, peut-être grâce à cette crise, que toute une partie des Français qui travaillent pourtant, qui ont un emploi, n'arrivent plus à vivre, que le travail ne paie plus. Donc, malgré tout, il y a des choses qui ont été faites. Quand on fait le compte de toutes les mesures annoncées par Emmanuel Macron l'année dernière, 17 milliards d'euros de pouvoir d'achat, c'est quand même gigantesque. Il y a énormément de choses qui ont été faites. Bon, malgré tout, ça se voit pas. Ça se voit pas concrètement. Hier, j'interrogeais une dame gilet jaune qui me disait effectivement ma retraite a augmenté d'un euro. Bon, parce que elle, effectivement, concrètement, ça n'a pas encore énormément joué dans son quotidien. Donc, il y a tout un travail encore qui doit être fait, et on l'a encore entendu aujourd'hui, sur comment intégrer mieux, par exemple, la participation pour tous les salariés dans les entreprises.
C'est ce que donc, demande que notamment une partie de la majorité hein, dans cette tribune aux Parisiens.
Tout à fait, que le travail paie mieux. Alors maintenant, quand on entend quand même Christophe Castaner qui parle de brutes et de voyous, dans Jean-Luc Mélenchon dit il parle des gilets jaunes. Non, il parle d'une cette minorité qui continue à être là pour casser, pour détruire, pour voilà s'attaquer aux symboles du pouvoir et de l'argent. C'est ce qu'on appelle les black blocs qui sont encore très présents à chaque manifestation, quel que soit le mot d'ordre. Donc, ce sont pas du tout des gilets jaunes. Maintenant, ces gilets jaunes qui étaient là il y a un an, qui ne sont plus là aujourd'hui, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Comment ils vont s'exprimer? Est-ce que ça va être à travers la manifestation du 5 décembre sur les retraites? Peut-être, peut-être différemment, mais en tout cas, la colère, l'inquiétude, elle est toujours là.
La colère, l'inquiétude, toujours là. Pour autant, et je m'adresse à la communicante, la Céline Boisson, est-ce que les gilets jaunes se sont fait, allez, voler leur anniversaire avec ces cas, ces images que l'on a vues, assez spectaculaires, ou est-ce que, au final, auprès de l'opinion publique, on se dira, oui, bon, on fait encore la part entre les gilets jaunes et ces casseurs?
Le souci, c'est que il n'y a pas un gilet jaune, mais il y a des gilets jaunes, et que depuis un an, en fait, il y a eu de multiples revendications des gilets jaunes, et chaque gilet jaune est sincère, mais n'a pas forcément eu la réponse du gouvernement, parce que les revendications sont tellement multiples que même pour le gouvernement, c'est difficile d'y répondre. Il y a eu plein de choses.
C'est difficile, c'est impossible, presque.
Ouais, c'est peut-être impossible, oui. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place, mais effectivement, la revendication majeure des Gilets jaunes qui est sur le pouvoir d'achat, il n'y a pas eu de loi notable sur la notion de pouvoir d'achat qui a intensifié peut-être la colère, qui a intensifié peut-être le retrait de certains Gilets jaunes qui ont été ailleurs ou en tous les cas qui se sont investis dans d'autres domaines. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il y a un chaos, du coup, ce qui aboutit à un chaos social, un chaos sociétal, et ce qu'on retient du coup du mouvement depuis un an, c'est effectivement cette violence. Cette violence qui vient de toutes parts, d'ailleurs, et je n'ai pas la réponse de dire si elle vient des gilets jaunes, si elle vient des black blocs, si elle vient des deux, si elle vient de l'information aussi qu'on veut en donner ou la façon dont on veut exposer les choses, et chacun interprète comme il veut. Est-ce qu'ils se sont fait voler leur anniversaire? Non, je ne pense pas. En tous les cas, on en reparle. C'est la suite aussi qui va les autres samedis, les autres week-ends, qui vont nous permettre aussi de voir si ce mouvement peut aboutir à quelque chose de notable par rapport à décembre et aux grèves qui vont.
Et savoir aussi si c'est un mouvement qui s'inscrit encore dans la durée. Je vous pose la question juste après l'info, le rappel de l'info, 20h10 sur France Info. Steven Goyi nous a rejoint.
Le courant revient doucement. Environ 90% des foyers impactés par l'épisode neigeux ont ce soir retrouvé l'électricité, annonce du gestionnaire de réseau Enedis. 33 000 foyers restent toujours privés d'alimentation dans la Drôme, l'Isère et l'Ardèche. Eux ont allumé un groupe électrogène à leur domicile sans aération. Un couple de septuagénaires est mort la nuit dernière en Isère. La justice suspecte une intoxication au monoxyde de carbone. Mobilisation de gilets jaunes plus calme qu'hier pour le premier anniversaire du mouvement. Des rassemblements à noter dans le quartier des Halles à Paris. Sur les grands boulevards, l'intrusion d'une trentaine de personnes a provoqué la fermeture des galeries Lafayette. La contestation ne s'essouffle pas au Liban. Début du deuxième mois de manifestation pour réclamer le départ de la classe dirigeante. Des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues des grandes villes cet après-midi. Et puis la centième de Deschamps sur le banc des Bleus. France-Albanie ce soir, coup d'envoi dans un peu plus d'une demi-heure. L'équipe de France tentera de décrocher la première place de son groupe avec des surprises dans la composition. Une défense à 3 et un Kylian Mbappé sur le banc.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neil Alatrousse.
On continue de décrypter cet anniversaire. C'est un an de gilets jaunes. Certains appellent les casseurs Black Blocs. Le préfet de police de Paris évoquait lui hier des ultra jaunes. Une question de couleur, cela peut sembler anecdotique. Mais la question ne l'est pas. Analyse de la violence qui entoure le mouvement par l'historien Sylvain Boulouk, spécialiste des mouvements sociaux, qui était sur France Info.
C'est un mouvement qui, en fait, depuis le mois de décembre de l'année dernière, sans s'essouffler complètement, se transforme, change. C'est-à-dire que les participants, il y a des gens qui souhaitent, parce qu'ils appartiennent à cette gauche émeutière, utiliser la violence comme étincelle qui mettrait le feu à la plaine. Donc ça, c'est une frange d'une gauche radicale un peu particulière. Deuxième chose, il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que la violence est devenue quelque chose de légitime, parce que s'il n'y a pas de casse, il n'y a pas de 20 heures, et que le moyen de communiquer, de se faire remarquer, et justement l'émeute ou la révolte violente. C'est vrai que si on regarde les samedis où ça a été calme, on n'a pratiquement pas parlé des gilets jaunes.
La violence comme seul moyen de se faire entendre, Jérôme Chapuis, ça rejoint le constat que vous faisiez en première partie de cette émission, constat regrettable. Mais est-ce qu'il est juste? Est-ce que la violence est aujourd'hui le seul moyen de se faire entendre ou...
Alors moi je ne me prononcerai pas là-dessus. Ce qui est sûr en tout cas dans ce que dit Sylvain Boulouk, c'est qu'effectivement il y a une frange d'irréductibles et qui sont violents. Il faut souligner que cette frange est minoritaire. C'est-à-dire que, encore une fois, je souscris tout à fait à ce que disait Céline Boisson il y a quelques instants. Il y a une multitude de revendications. C'est un mouvement très difficile à appréhender. Un mouvement en plus qui a souffert quand même dès le départ d'une difficulté, c'est que il refusait toute organisation. Et là, on est sur quelque chose de comment dire. Encore une fois, on est réduit à la frange la plus radicale. C'est ce qu'on voit de samedi en samedi. Mais il y a des gilets jaunes encore aujourd'hui, qui sont très nombreux, et pour certains, ils manifestent. Je vais peut-être vous surprendre, moi j'ai vu une manifestation de gilets jaunes, j'étais dans Paris jeudi après-midi, ils étaient en blouse blanche. Je pense que les infirmières, les infirmiers, tout le mouvement hospitalier qui en ce moment, qui sont des gens qui souffrent, qui sont des gens qui travaillent énormément, sont des gens qui pour beaucoup ont du mal à boucler leur fin de mois. C'est ça la France des gilets jaunes aujourd'hui, et qui a trouvé d'autres modes d'expression aujourd'hui.
Ils se sont redéployés d'une certaine façon dans leur secteur d'activité.
Ce qui est peut-être d'ailleurs une bonne nouvelle pour le gouvernement, parce que là au moins ils ont des interlocuteurs, ça s'appelle les syndicats.
On avait vu, en effet, au moment où il y a eu les très très grosses violences l'année dernière, que petit à petit, les gens qui venaient en famille, les gens qui étaient sur les ronds-points, ont commencé aussi à pâtir de cette violence, puisque eux-mêmes ont commencé à se demander si ils faisaient vraiment toujours, ils avaient toujours un rôle dans ce mouvement. Et ça un petit peu, eux-mêmes, ça les a un petit peu fait hésiter. Et je pense que cette violence là, elle crée quand même une scission entre le mouvement très massif des gilets jaunes qu'on a connu l'année dernière sur les ronds-points. Et est-ce que du coup, peut de nouveau vous posiez la question, les week-ends suivants attirer comme l'année dernière? Je pense que ce genre de très grande violence peut freiner. Ça ne veut pas dire, comme on le disait, qu'il n'y a pas derrière tous ces gens, et notamment en effet ces convergences qui peuvent avoir lieu, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit chez les pompiers, on l'a vu récemment avec les étudiants, qu'il n'y a pas vraiment une forme de contestation qui est là et qui pourrait relier les gilets jaunes. Mais je ne pense pas du tout que cette violence, qui en fait est très minime, mais sur laquelle nous on se focalise énormément, on l'a vu là avec les Galeries Lafayette qui viennent d'être envahies par très peu de personnes, et d'un seul coup on fait un énorme focus, et en réalité je pense qu'il y a quand même une espèce de déconnexion entre ce petit nombre et ce que sont vraiment les gilets jaunes.
Non, mais vous demandiez si les gilets jaunes se sont fait voler leur anniversaire. Je pense que les gilets jaunes se sont fait voler leur mouvement depuis déjà de nombreux mois. Le mouvement des gilets jaunes en tant que tel, comme on l'a connu il y a un an, il est mort depuis déjà très longtemps. Maintenant, aujourd'hui, le gilet jaune, c'est quoi? C'est cette violence qu'on voit émerger certains week-ends comme ça, de manière extrêmement forte, brutale, avec tout petit nombre de personnes. On parle de 30 personnes cet après-midi dans les Galeries Lafayette, c'est absolument ridicule. Donc les vrais gilets jaunes, ils ne sont plus là, ils sont ailleurs. Effectivement, peut-être qu'ils étaient dans la rue pour les blouses blanches, les infirmiers cette semaine, avec là des vraies revendications, totalement légitimes d'ailleurs, même partagées par quasiment toute la classe politique. Donc le gouvernement va avoir beaucoup de mal là à répondre à cette colère. C'est la même chose depuis un an, mais là, il va falloir répondre secteur par secteur. C'est à la fois plus facile quand on a un mouvement qui est assez bien identifié par catégorie, puisqu'effectivement, il y a des interlocuteurs, il y a une manière de discuter et de négocier, donc, alors que le mouvement des Gilets jaunes, au départ, très vite, on n'a plus compris quelles étaient les revendications des Gilets jaunes. Quand on allait les voir, vous demandez quoi? Chaque Gilet jaune avait sa revendication.
Mais vous entendez ce que dit la droite? La droite dit que ce n'est pas une question de manifestation, c'est une question de dispositif de sécurité. Il y a des manifs qui se passent bien.
Bien sûr qu'il y a des manifs qui se passent bien, mais là, c'est-à-dire que là, vous pouvez mettre 7000 policiers, 10000 policiers dans les rues. Quand vous avez autant de manifestants extrêmement violents, peut-être certes minoritaires, mais quand même très, très présents, voilà, la manifestation ne peut pas bien se passer de toute façon.
Qu'on s'entende bien, lorsque je disais minoritaire, c'est minoritaire dans l'opinion publique. Fait, c'est-à-dire qu'on sait, il y a une immense majorité de Français qui ne souscrit absolument pas aux violences que nous voyons se succéder de week-end en week-end. Bien entendu, après, évidemment, cette violence est très visible, elle est peut-être effectivement majoritaire dans ceux qui continuent de se revendiquer du mouvement des Gilets jaunes.
Précision de Jérôme Chapuis. Céline Boisson, on sait qu'il y a une loi anti-casseurs qui a été votée en février dernier à l'Assemblée. Le préfet dit la réponse sera extrêmement ferme. Est-ce que ça veut dire que ces casseurs doivent s'attendre aussi à ce que des instructions aient été éventuellement passées à la justice, au parquet ? Est-ce que ça veut dire que l'opinion publique aussi suivra au niveau des interpellations, des gardes à vue ? Quelle est la réponse qui a été donnée ?
En tous les cas, je pense que cette loi anti-casseurs, elle doit commencer par être appliquée fermement. Je pense que la violence, elle doit être condamnée. Et c'est un enjeu pour moi très important parce que effectivement les gilets jaunes d'il y a un an se sont retirés. Donc c'est une colère qui hier, il y a un an, était présente et déclarée. Aujourd'hui, elle devient toujours présente, mais elle ne se dit plus. Il ne faut pas rompre le dialogue avec ces gilets jaunes parce que ça peut être un retour de boomerang énorme pour le gouvernement.
Vous pensez qu'il peut y avoir résurgence alors? Sous cette forme ou pas, hein, on entendait toujours dans les couleurs blouse blanche.
Oui, et cette colère, elle est toujours présente. Donc si on n'instaure pas et on ne garde pas le dialogue avec ces catégories-là, ces mouvements-là, et qu'on n'écoute que les gens qui sont violents, on va arriver à une interruption du dialogue social et du coup, une France et une démocratie aussi fragilisées.
Jérôme Chapuis, on sait qu'il y a une mission qui évalue les effets sur l'économie. Non pas du mouvement des Gilets jaunes, mais pour le coup des mouvements de casse. Est-ce qu'il y a une crainte que ça aille encore plus loin? On a la période de Noël qui arrive, on évoquait les galeries Lafayette fermées aujourd'hui suite à l'intrusion d'une trentaine de personnes.
Ce qui est certain, c'est que la France ne peut pas se permettre une deuxième fois une période telle qu'on l'a connue l'an dernier, pendant cette période qui est très importante, à la fois évidemment pour l'économie, mais aussi pour le moral, pour le bien-être d'un pays. C'est-à-dire que c'est une période Noël. L'an dernier, il y a des gens qui disaient non, on n'est pas en état de fêter Noël là, tellement au-delà de la question économique. Donc il y a la question, évidemment, les craintes qu'on peut avoir par rapport à d'éventuels troubles qui viendraient poser des problèmes pour l'économie. Mais il y a aussi peu de Français sans doute ont envie de passer un deuxième mois de décembre tel que celui qu'on a connu l'an dernier.
Et n'est notamment pas du côté du gouvernement, hein, puisqu'aujourd'hui, Bercy, par la voix du ministre de l'économie, ouvre la voie éventuellement à un rachat de la dette des hôpitaux par l'État. On en parle dans quelques instants. 20h20 sur France Info, le rappel de l'information avec Steven Goyer.
Ils occupaient une salle désaffectée. Depuis jeudi, une centaine de gilets jaunes a été évacuée cet après-midi d'une ancienne salle de concert dans le 20e arrondissement de Paris. Les propriétaires du lieu avaient déposé plainte pour dégradation. La Drôme, l'Isère et l'Ardèche toujours impactés par les coupures de courant. 33 000 foyers restent ce soir privés d'électricité. Le gestionnaire de réseau Enedis précise que 90% des foyers impactés par l'épisode neigeux ont été réalimentés. 4 jours avant l'entrée en bourse de la Française des Jeux, plus d'1 milliard d'actions ont été souscrites. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire salue un succès populaire. Le prix de l'action, lui, n'est pas encore connu. La police hongkongaise menace les manifestants. Les forces de l'ordre n'hésiteront pas à tirer à balles réelles si les manifestants continuent à utiliser des armes létales, annonce après la blessure d'un policier victime d'une flèche tirée depuis un bastion pro-démocrate. Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut l'ont fait. 6-4, 6-3, 6-3, 6-4, victoire du double français en finale du Masters de tennis de Londres. Avec la manière, la paire française n'a concédé aucun set pendant le tournoi.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neila Latrousse.
La semaine dernière, il n'en était pas question. Aujourd'hui, c'est pourquoi pas. La reprise des dettes des hôpitaux par l'État n'est plus un tabou, annonce de Bruno Le Maire, ministre de l'économie.
Je suis ouvert à toutes les solutions, du moment qu'elles sont rapides, efficaces et qu'elles concernent les personnels hospitaliers. En priorité, merci, je ne veux pas de réponse administrative, un peu facile, un peu commode. Je souhaite des réponses qui soient concrètes pour les personnels qui sont en souffrance et qui soit immédiatement visible. Le Premier ministre et le Président de la République rendront des arbitrages en début de semaine, que les personnels hospitaliers puissent se dire « nous avons été entendus et ça va changer ». Pas de réponse administrative, des réponses
Et mettre donc le paquet.
Jean-Baptiste Marteau, vous êtes journaliste politique à France Télévisions et vous suivez évidemment tous ces dossiers hein, pour France 2. Expliquez-nous, la semaine dernière c'était un non absolu. Aujourd'hui, c'est tout est ouvert. Il s'est passé quoi en une semaine ?
Peut-être le constat et du coup le fait que tous les Français également l'ont découvert à travers les nombreux reportages que la situation de l'hôpital, elle est très critique. La situation des personnels comme des malades, c'est pas juste des revendications catégorielles ou défendre des avantages acquis. Là, on est vraiment avec des situations hallucinantes. Même quand vous avez la chef de Necker, quand même l'un des hôpitaux les plus prestigieux en France, qui dit « même à Necker, je dois refuser ou me battre tous les jours pour soigner des enfants épileptiques », on se dit qu'il y a un problème. Donc l'État, effectivement, là, doit concéder qu'il faut faire quelque chose parce que le système va exploser, parce que l'hôpital n'a pas été réformé depuis 20 ans et parce qu'effectivement, il y a une dette qui devient complètement, qui étouffe tous les hôpitaux. Donc bon, peut-être qu'on peut sortir la dette, comme on l'a fait d'ailleurs pour la SNCF il y a quelques mois seulement. C'était 40 milliards. Là, on parle de 30 milliards pour les hôpitaux. Bon, ce sont des sommes évidemment colossales. Après, il va falloir, d'une manière globale, qu'on ait une réforme générale de l'hôpital. Quand vous voyez que aujourd'hui les urgences sont en train de pallier tous les maux de la société, parce que tout le monde vient aux urgences, soit parce qu'il n'y a pas de médecins, soit parce que c'est plus facile, parce que effectivement c'est moins cher, il n'y a pas d'argent à sortir, pour diverses raisons, le système aujourd'hui est à bout de souffle. Donc c'est une réforme globale qu'il va falloir engager. Et là, je pense qu'il y a une prise de conscience, pareil, assez unanime.
Jérôme Chapuis.
D'ailleurs, la question est, qu'il faut se poser, c'est de savoir s'il ne faut pas commencer par la réforme globale avant de déponger les dettes. Parce que sinon, c'est l'assurance d'avoir à refaire la même chose dans une dizaine ou une quinzaine d'années, puisque nous avons effectivement un système qui structurellement prend l'eau, qui est structurellement déficitaire. Et ce qu'attendent, je crois, si je les ai bien entendus ces derniers jours sur les radios et les télévisions, ce qu'attendent les personnels hospitaliers, c'est évidemment ce type de geste financier important.
C'est un changement de ton quand même notable en une semaine.
Alors c'est un changement de ton évidemment et je pense que le gouvernement, vous parliez de risque de coagulation et de coalition des luttes, évidemment c'est un signe que le gouvernement est attentif politiquement à ce risque, mais ce qu'attendent les personnels hospitaliers, c'est évidemment d'abord et avant tout de la considération, moins de complexité et tout simplement de pouvoir faire leur métier dans de bonnes conditions.
Ah, vous disiez que ça avait changé d'un seul coup, mais je pense quand même que là, ça vient directement de l'Élysée, hein, parce qu'on a vu qu'Emmanuel Macron s'était vraiment affiché là, et s'est mis un peu en première ligne sur cette question. En effet, la crainte de la convergence des luttes avec les blouses blanches, c'est vraiment quelque chose qui peut faire peur au gouvernement et au président Macron. Mais je pense vraiment que cette dette, ça suffit pas du tout. La structure de l'hôpital, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a pas que le problème des urgences. Il y a un problème même administratif, puisqu'on demande aux médecins maintenant de gérer des tas de postes d'administration qu'ils n'avaient pas du tout à faire. Donc, ils ont beaucoup plus de travail qu'avant. Il y a en effet beaucoup moins de personnel. Il y a beaucoup plus d'heures. La pression sociale est très grande. En effet, il y a beaucoup moins de reconnaissance de la part des Français. C'est-à-dire que vraiment, quand on interroge les gens, que ce soit aux urgences ou ailleurs, avant, il y avait quand même une considération pour le travail du médecin, le travail des infirmières. Et là, de plus en plus, ils sont agressés. Il y a beaucoup d'agressions physiques, verbales. Et donc, c'est un tout qui fait que, en effet, les hôpitaux, le personnel des hôpitaux se sentent, en effet, plus du tout reconnus. Donc, la dette, ça ne suffira pas. C'est certain que ça ne suffira pas. Mais je pense que pour répondre à votre question, ça vient vraiment de l'Élysée, ce changement d'un seul coup de réponse.
Céline Boisson.
Bien sûr, ça suffira pas, mais c'est quelque chose, je trouve, de très positif. Parce que ça montre bien qu'il y a un phénomène d'urgence dans le domaine des hôpitaux et dans le domaine de la santé en général, qu'on a quand même un système unique dans le monde qu'il faut préserver. Et dans cet objectif de valoriser la profession, valoriser ces gens qui font la grève tout en continuant à travailler, qui ont une vocation qui est unique, le faire à ce moment-là, je trouve que c'est quand même positif. D'ailleurs, il aurait dû le faire beaucoup plus avant, mais le faire maintenant,
il le fait un peu acculé d'une certaine façon.
C'est quand même extrêmement positif.
Le gouvernement agit d'une certaine façon dos au mur.
Oui, certainement. Oui, parce que il y a beaucoup de choses à faire dans les semaines qui viennent, et c'est la grève du 5 décembre, je pense, va arriver très vite, hein, et que c'est peut-être quelque chose qu'ils ont décidé de faire par rapport à la grève qui arrive. Mais en tous les cas, oui, c'est pas suffisant, mais c'est quand même, on peut se satisfaire de cette décision et de ce changement de ton rapide.
C'est vrai que c'est arrivé en deux temps, en plus, parce que d'abord, Agnès Buzyn a commencé à débloquer une enveloppe qui était assez importante, qu'elle pensait effectivement pouvoir calmer la colère avec cette enveloppe qui était quand même significative. Et là, l'Élysée s'est rendu compte très vite qu'effectivement, ça ne suffisait pas et qu'il fallait venir peut-être en aide à la ministre de la Santé en débloquant, en disant vraiment, voilà, tout est ouvert. Et d'ailleurs, mercredi, on devrait avoir les annonces avec probablement une prime qui serait donnée au personnel au plus faible salaire. Donc, ils se sont aperçus que ça ne suffisait pas, qu'il fallait le saupoudrage, qui était quand même de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros, mais ne suffisait pas, qu'il fallait vraiment mettre le paquet et réformer l'hôpital.
Un plan mercredi, donc, qui sera annoncé par le Premier ministre, et nouvelle manifestation le 30 novembre. On continue de débattre de ce tournant social, de la convergence des luttes peut-être, qui sait, les semaines prochaines, entre les Gilets jaunes et les grévistes contre la réforme des retraites. Mais d'abord, la météo et le journal. Mais d'abord, le trafic avec Jeanne Dosset, un accident dans les Hauts-de-France.
Oui, sur l'A2 dans le sens Paris-Belgique au sud de Cambrai, une collision entre deux voitures à hauteur d'Avrincourt pour être exact. Vous ne circulez que sur une voie et êtes ralenti sur un peu plus de 2 km. En Ile-de-France, à l'est de Paris, je vous signale que l'A86 intérieure est assez encombrée entre Bondy et Nogent-sur-Marne. Il y a des travaux sur la chaussée sur environ 5 km. Conséquence, vous êtes retardé d'un bon quart d'heure.
France Info Météo avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Parce qu'anticiper vous ouvre de nouvelles perspectives.
Les prévisions météo sur France Info, Jean-Michel Golinski.
Deux dépressions vont jouer un rôle majeur dans l'évolution du temps sensible sur la France ce lundi. La première centrée en Méditerranée va donner un vent turbulent sur les côtes, des orages souvent accompagnés de fortes précipitations sur la Corse, puis ce temps instable va gagner en fin de journée vers la côte d'Azur. Notez que du golfe du Lion à l'ouest de la Provence et en moyenne vallée du Rhône, le soleil va résister. La seconde zone de basse pression positionnée sur l'Allemagne va générer un temps pluvieux du nord de la Seine aux frontières suisses et allemandes, avec de la neige à basse altitude sur le relief et parfois jusqu'en plaine sur le quart nord-est en début de journée. Près des Pyrénées, risque d'averses passagères avec de la neige à partir de 600 mètres le matin. Sur le reste du pays, les brouillards et les grisailles vont généralement évoluer lentement. Le tout dans les températures maximales, toujours très basses et souvent inférieures de 4 à 5 degrés par rapport au normal. Au lever du jour, en dehors des côtes et des régions méditerranéennes, les valeurs vont indiquer entre 0 et 3 degrés sous abri.
À 20h30 sur France Info, toute l'information. Olivia Ferrandi, bonsoir.
Bonsoir. Des amis, des voisins, des collègues de travail, ils étaient plus de 200 aujourd'hui à marcher en silence en Alsace, à Oberhofen-sur-Moder, après la mort de Sylvia Hochter. Cette femme de 40 ans aurait été tuée par son mari. L'homme a été incarcéré, mis en examen pour meurtre. Une plainte avait été déposée contre lui en octobre, mais il ne devait pas être convoqué avant décembre. Chantal et Nelly travaillaient avec Sylvia Hochter à l'hôpital de Bichevillers. Leur présence, aujourd'hui, pour cette marche, était pour elle une évidence.
Moi, j'arrive pas à réaliser, c'est tout. C'est ma collègue de travail. J'ai du mal à accepter ça. C'est triste d'arriver là. Et c'est dommage qu'elle n'en a pas jamais, qu'elle n'a pas parlé avant avec nous au boulot. Je comprends pas qu'on peut vivre ça. Maintenant, il est trop tard. Voilà, elle est plus là. C'est dommage. Ça manque quand même.
Je suis une ancienne collègue, j'ai pas travaillé longtemps avec elle. Mais voilà, j'avais besoin d'être là pour lui rendre hommage. C'est déjà la troisième personne que je perds malheureusement comme ça cette année.
Trois personnes frappées par les maris.
C'est ça, qui sont décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.
En Alsace ?
En Alsace.
Autour de vous ?
Autour de moi. Des connaissances de lycée. Voilà, du coup, j'avais vraiment besoin d'être là pour marquer le coup.
Dans cette affaire, l'inspection générale des services a été saisie pour évaluer les éventuels dysfonctionnements. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a reconnu pour sa part que le système de protection des femmes victimes de violences conjugales ne fonctionnait pas en France. 33 000 foyers encore contraints de s'éclairer à la bougie ce soir en Rhône-Alpes. Les techniciens d'Enedis ne sont pas parvenus à les raccorder au réseau après les dégâts provoqués par les chutes de neige précoces de jeudi dernier. Le retour de l'électricité est espéré pour demain. Ce matin, les corps de deux personnes âgées ont été retrouvés dans leur maison près de Bourgoin-Jallieu en Isère. Le couple a été intoxiqué par du monoxyde de carbone. Ils avaient utilisé un groupe électrogène pour avoir du chauffage. Pour une centaine de gilets jaunes, la Flèche d'Or était devenue depuis jeudi la Maison du Peuple à Paris. En fait, ils avaient rebaptisé l'ancienne salle de concert parisienne vide depuis 2 ans. Ils occupaient les locaux depuis 3 jours. Donc, lorsqu'ils ont été évacués aujourd'hui par les forces de l'ordre, c'était l'une des actions menées ce week-end pour le premier anniversaire de ce mouvement social. D'autres gilets jaunes sont allés jeter des confettis aux Galeries Lafayette cet après-midi pour dénoncer le capitalisme et le temple de la consommation. À l'international, des feux brûlent ce soir dans l'enceinte de l'Université Polytechnique de Hong Kong, moyen utilisé pour tenter de dissuader la police d'intervenir, alors que plusieurs centaines d'étudiants pro-démocratie occupent le campus devenu ces derniers jours l'épicentre de la contestation. Ce matin, les étudiants avaient tiré des flèches sur les forces de l'ordre. La police anti-émeute se dit prête à tirer à balles réelles sur les manifestants ce soir si elle fait face à nouveau à des armes létales. Coup d'envoi dans un petit quart d'heure maintenant du match entre la France et l'Albanie, match des phases de qualification pour l'Euro 2020. C'est du football à vivre en direct sur France Info à partir de 20h45, 20h33 pour l'heure. On retrouve Naïla Latrousse et ses informés.
20h, 21h, les informés, Naïla Latrousse.
Avec Jérôme Chapuis, rédacteur en chef à La Croix, Céline Boisson, communicante et directrice associée de l'agence Nude, Jean-Baptiste Marteau, journaliste politique chez France Télévisions, et Maude Guillaumin, journaliste indépendante et documentariste opération déminage tout azimut pour la majorité. Dans la santé, on l'a vu, Bercy ouvre la voie à une reprise de la dette des hôpitaux. Mais d'autres foyers menacent, étudiants, agriculteurs, pompiers, policiers, enseignants, cheminots. Pour autant, la majorité dit ne pas craindre de convergence. Écoutez.
Non, je ne le crains pas, mais notre responsabilité, c'est de garder la porte du dialogue ouverte. C'est ce que nous faisons pour préparer cette réforme. Vous savez, je crois qu'on vient de parler des gilets jaunes, de ce que nous venons de vivre depuis un an dans le pays. Un des grands enseignements, c'est que nous devons davantage construire les réformes avec les Français.
Jean-Baptiste Marteau, journaliste politique chez France Télévisions. Même pas peur, c'est un élément de langage où vraiment aujourd'hui, la majorité a des raisons de ne pas croire, comme le dit Stanislas Guérini, à cette convergence.
Mais tout dépend de quoi on parle. Si effectivement la convergence des luttes, ça veut dire des ex-gilets jaunes qui vont se retrouver avec les cheminots de la SNCF, avec les blouses blanches, avec, et tout le monde dans la rue en même temps pour une grande journée d'action, ça effectivement, il y a assez peu de chances que ça arrive, parce que c'est dans l'histoire très peu arrivé, 68, un peu 95 et encore. Bon, ensuite, est-ce que à partir du 5 décembre, on peut avoir un pays paralysé et donc un gouvernement qui ne peut plus réformer, ne peut plus aller au bout de sa réforme? Oui, évidemment. Il n'y a pas besoin de convergence des luttes pour ça. Ne serait-ce que d'avoir déjà tous les transports et tous les syndicats qui sont à peu près d'accord pour une action forte et qui dure. Là, ça vous suffit à faire reculer un gouvernement. Toute la question, c'est combien de temps le gouvernement va-t-il tenir?
Édouard Philippe dit, le Premier ministre, il dit il faut tenir. Hein, le Premier ministre.
Il faut tenir et vous avez des parlementaires, notamment un que j'ai rencontré cette semaine, qui me dit faut arrêter de rêver. Au bout d'une semaine, on ne pourra pas tenir plus que ça, si c'est la paralysie totale. Oui. Donc, on verra.
Gérard Collomb dit que, pour l'instant, il n'y a pas du
maire
tout
de Lyon, le maire,
voilà, il n'y a pas du tout le terreau favorable pour. C'est quand même une réforme structurelle très importante, cette réforme des retraites. Faut se rappeler de 95, ça a été vraiment terrible, un blocage énorme. Là, on arrive juste derrière les gilets jaunes. On vient de le dire, il y a encore une France démoralisée et qui serait capable de faire d'un seul coup des sacrifices pour ces retraites qui comptent tellement parfois. Parfois pour des raisons personnelles, pas toujours très légitimes, peut-être rationnellement, mais qui comptent vraiment parce que c'est une lutte justement sociale. Et je pense qu'on n'est pas du tout dans une bonne phase pour pouvoir aller si loin et que cette convergence des luttes, elle est tout à fait possible. Je pense que c'est un gros coup politique puisque justement ils se disent que si jamais ils avancent fort et qu'ils lâchent rien et qu'il n'y a pas de convergence qui se fait, ils pourront aller très loin dans la réforme des retraites, c'est vrai. Et derrière, ils en profiteront certainement au moment des municipales. C'est le 15 et le 22 mars, donc ça va aller très vite. Et je pense vraiment que du coup, Édouard Philippe compte aussi sur cette positive attitude. Maintenant, je trouve ça très risqué.
C'est un pari risqué, Jérôme Chapuis.
Ce qui est intéressant, vous évoquiez 1995, il y a deux choses qui ont changé par rapport à 95, c'est qu'on a un gouvernement qui est plus faible. En 95, le gouvernement sortait d'une élection, était en position de force, et on a des syndicats qui sont plus faible. Parce que y a une chose est certaine, c'est qu'en 95, les syndicats mettaient en avant le principe de la grève par procuration. Nous, services publics, pouvons faire grève pour vous, secteur privé, qui ne pouvait pas descendre dans la rue pour défendre vos retraites. Nous le faisons pour vous. Je pense que de ce point de vue-là, les syndicats aujourd'hui sont moins audibles. Et c'est pour ça que le principe de la convergence des luttes sur la réforme des retraites me semble assez hasardeux. Je ne suis pas certain que les Français se retrouvent dans les revendications des cheminots, notamment parce que voilà, les temps ont changé en 20 ans.
D'autant que les arbitrages n'ont pas été complètement rendus sur les retraites et qu'il reste peut-être encore...
Ça, c'est le principe de toute négociation. On se débrouille pour arriver au combat avec encore quelques munitions à sortir. Et effectivement, toute la question est de savoir si ce sera au bout d'une semaine ou au bout de quelques jours.
Pour l'instant, les enquêtes d'opinion sont quand même très négatives vis-à-vis de la réforme des retraites. On ne sent pas une...
Oui, mais sur les régimes spéciaux, ce n'est pas tout à fait la même chose. Si on demande aux Français, est-ce que vous voulez garder les régimes spéciaux, très, très majoritairement pour évidemment les changer.
On est au cœur dans cette réforme de ce que les anglo-saxons appellent le syndrome NIMBY, not in my backyard, pas dans mon jardin. Je suis d'accord pour la réforme, mais pas chez moi.
Des régimes spéciaux, mais pas les miens.
Voilà, de tous les régimes spéciaux, mais pas les miens. Simplement, là, en l'occurrence, ce sont les cheminots, la RATP, qui vont bloquer le pays. Je ne suis pas certain, effectivement, qu'il y ait beaucoup de Français pour les soutenir.
Céline Boisson, on se rappelle qu'Emmanuel Macron, au début de son quinquennat, se présentait aussi comme le maître des horloges, celui qu'on ne met pas dos au mur, qui décide comme il le souhaite. Est-ce qu'il est encore dans cette position-là aujourd'hui, ou est-ce qu'il est stratégiquement, il se trouve dans une configuration où il n'a pas d'autre choix que de voir ce qu'il sortira de ces manifestations pour réagir.
Je pense que autant il était assez sûr du calendrier au début de son quinquennat, je pense que là il est un peu plus tout était un peu plus fragile depuis un an. On a bien vu qu'avec le mouvement des gilets jaunes, on avait des choses imprévisibles qui pouvaient se passer. Donc par rapport à la réforme des retraites, par rapport à la grève du 5 décembre, qu'est-ce qui va véritablement se passer, jusqu'à quel point le pays va être bloqué, je pense que personne ne peut véritablement le savoir.
Pour vous, le décembre noir, c'est une hypothèse.
C'est une hypothèse assez crédible pour moi aujourd'hui. Maintenant, je n'en suis pas sûre. Je pense que personne ne peut en être sûr. Tout ce que je sais, c'est que les Français et les Françaises n'ont plus rien à perdre et ont bien compris qu'il fallait être ferme et endurant pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et que du coup, on arrive encore une fois, si on reprend la notion de pouvoir d'achat, à des familles qui souffrent, des Français et des Françaises qui souffrent quotidiennement, donc ils n'ont plus rien à perdre. Donc le décembre noir est tout à fait possible.
C'est une bataille de l'opinion, cette grève. Tout va se jouer sur la question des régimes spéciaux. Est-ce que les Français sont prêts à garder ces régimes spéciaux avec certains départs à 52 ans, 54 ans pour d'autres? Est-ce qu'ils sont prêts à s'opposer à ça? Ou au contraire, est-ce que ils laissent faire et là les syndicats prennent la main et arrivent à imposer leur grève longue, comme c'était le cas en 95? Le gouvernement sait que ça va là-dessus, que ça va se jouer. Et c'est pour ça que les prochains jours et les prochaines semaines, d'ici le 5 décembre, vont être assez décisives là-dessus.
Et dans quelques instants, on débattra de la proposition des centristes. Un Grenelle du 21e siècle, est-ce que ça peut sauver le gouvernement d'un décembre noir? Débat dans quelques instants, 20h40 sur France Info, le rappel de l'information. Steven Goyer.
La neige perturbe toujours l'alimentation électrique en Rhône-Alpes. 33 000 foyers restent privés de courant dans la Drôme, l'Isère et l'Ardèche. Du côté de la SNCF, la réouverture de la ligne TER Valence-Grenoble est reportée à mercredi. Des vêtements roses et une marche en silence. Près de 300 personnes ont défilé ce matin dans les rues d'Oberhofen, dans le Bas-Rhin, pour un dernier hommage à Sylvia Hochter. Elle avait été retrouvée morte il y a une semaine après avoir été poignardée. Son mari est mis en examen pour meurtre sur conjoint. La chaîne pénale n'est pas satisfaisante. Propos de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, dans le journal du dimanche, après la publication du rapport sur les homicides conjugaux. Un rapport qui pointe que dans 65% des cas d'homicides et de violences conjugales, la justice ou la police avait été saisie. Plus de 50 églises endommagées, dont la basilique Saint-Marc, des commerces inondés. Bilan de la semaine à Venise après 3 montées des eaux successives. L'Acqua Alta est montée aujourd'hui jusqu'à 1,50 m. Pise et Florence sont à leur tour placées en alerte. Objectif première place, les Bleus affrontent dans moins de 5 minutes l'Albanie pour leur dernier match de qualification pour l'Euro 2020. La France est déjà qualifiée mais joue pour prendre la tête du groupe.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neïla Latrousse.
La France est en dépression, diagnostic des centristes qui signent une tribune dans Le Parisien aujourd'hui en France. Le remède qu'il propose, une grande conférence sociale pour, je cite, « dessiner le chemin vers un sursaut national ». Explication du député et secrétaire général du Modem, Jean-Noël Barrot sur France Info.
Les inégalités fragilisent notre contrat social et sapent les fondements de notre démocratie. Et on peut faire beaucoup mieux et c'est l'objet de cet appel à un sursaut national pour un meilleur partage des fruits de la croissance. Grâce au grand débat national, un début de dialogue est venu se substituer à la violence et que c'est donc ce dialogue-là qu'il faut poursuivre avec toutes les forces vives de la nation et ça inclut évidemment les partenaires sociaux et bien au-delà. Et ça doit nous conduire à discuter évidemment dans la perspective du 5 décembre et du mouvement qui est annoncé, mais bien au-delà, et de poursuivre ce dialogue, parce que la confiance a été
mais
rompue.
Le dialogue, c'est bien, mais il faut des... Vaste programme, Guillaume, que comprenez-vous de la tribune? C'est juste un appel au dialogue, ou ça dessine un chemin vraiment pour éviter un décembre noir tel qu'on l'évoquait il y a quelques instants?
Ah, je pense que ça dessine un chemin. C'est une idée qui avait été déjà proposée par Laurent Berger de la CFDT, qui avait été écartée par Matignon. Je pense en effet que le gouvernement a proposé des mesures pour le pouvoir d'achat, pour changer des choses. Or, on l'a bien dit, la démoralisation, elle reste là. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, les gilets jaunes, ils sont toujours là, ils critiquent toujours leur situation. Donc, ce Grenelle du 21e siècle, il est utile dans le sens où, de toute manière, il n'y a plus de vrais liens avec les partenaires sociaux, plus personne n'est syndiqué, plus personne ne s'investit au sein de son entreprise, et donc du coup, une vraie entente, une vraie convergence, comme le propose la tribune, justement, entre l'entreprise et les syndicats pour réfléchir à augmenter ensemble la feuille de paye, pour faire du coup une vraie démarche dans les deux.
Concrètement.
Pour que ça se voit concrètement, pour essayer ensemble de, c'est ça vraiment d'avoir une vraie modernisation de l'emploi et en permettant aux salariés de s'investir. On le voit bien, c'est quelque chose qui est complètement mort en France, la syndicalisation. C'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Et peut-être que si on poussait davantage les gens à s'investir, il y aurait une envie et non pas seulement ce moral en berne.
Jean-Baptiste Marteau. Jérôme Chapuis.
Vous pensez sérieusement que si on fait un Grenelle de la conférence sociale, une grande conférence recevant tous les syndicats pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines à Matignon, ça va changer quelque chose pour le quotidien des Français et on va tout de suite se reparler et apaiser un peu le pays? Bon,
c'est
on peut
peu
y croire.
C'est un peu le débat de Macron, mais on n'y croyait pas.
Voilà, on peut y croire. On peut y croire, j'en suis pas tout à fait sûr. D'abord, parce qu'il y a un gros problème de représentativité. Effectivement, les gens ne sont plus syndiqués.
Et
aujourd'hui,
où on peut aller les chercher.
Les syndicats, même les chefs d'entreprise, même les. Qui est représentatif pour venir discuter autour d'une table et représenter les Français, malheureusement, plus grand monde.
D'où l'importance
d'où,
de cette conférence.
Voilà, oui, si c'est pour discuter avec des gens qui ne sont pas représentatifs et au final, avec qui ne s'en sortent rien, s'ils sortent un espèce de filet d'eau tiède, une grande synthèse de dire qu'on a discuté ensemble pendant 3 semaines, bon, très bien, de toute façon, c'est toujours.
D'autant que c'est le principe sur les retraites, hein. Il y a cette consultation.
Bien sûr,
des
il y a une concertation permanente. Les syndicats, ils sont reçus au ministère du Travail toutes les semaines quasiment. Heureusement, il le faut. Maintenant, regardez ce grand débat, c'était le pari d'Emmanuel Macron. Après, d'ailleurs, vous avez raison, après avoir raté la main tendue de Laurent Berger,
oui.
Et Édouard Philippe la balaye d'un revers de main le dimanche soir du premier week-end des Gilets jaunes, le 18 décembre 2018, là, c'était une erreur. Derrière, ils se sont rattrapés avec le grand débat. Mais qu'est-ce qu'il en est sorti de ce grand débat? Est-ce qu'on a réussi à apaiser la société, à trouver des solutions? Bon, peut-être un début sur 2-3 thèmes, mais pas grand-chose.
Ce qui est terrible avec cette idée, c'est qu'on n'a pas envie d'être en désaccord, évidemment. On a toujours envie d'être d'accord pour se mettre autour d'une table, pour discuter et, si possible, en sortir avec des hausses de salaire généralisées. Mais tout ça, ça fait quand même un peu penser magique. Et s'il suffisait, effectivement, de refaire un Grenelle sur les salaires pour sortir d'une crise sociale qui est très profonde, parce qu'en réalité, elle n'a pas commencé il y a un an avec les Gilets jaunes. Il y a une crise de la représentativité dans ce pays, on l'a beaucoup vu, c'était l'un des aspects de la crise des Gilets jaunes, Jean-Baptiste Marteau l'évoquait. Tout notre sujet aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus les instances représentatives pour réguler, nous parler et au bout du compte, trouver ensemble des solutions qui vont dans le sens de l'intérêt général et qui ne soient pas seulement des réponses catégorielles.
Dans la tribune, Jérôme Chapuis, je vais vous poser la question, vous aussi, vous êtes observateur au quotidien de cette vie politique, il y a un signataire qu'on ne voit pas, c'est François Bayrou. On peut imaginer que la tribune ait été faite dans son dos ou peu probable.
Alors j'ai pas d'informations là-dessus. Je pense en tout cas que il faut apparaisse comme une initiative politique, d'où l'importance de faire appel au président de groupe des différentes assemblées. Voilà, c'est aussi une manière pour cette partie de la majorité qu'on entend peu finalement, hein, qui est finalement le deuxième pilier de la majorité, mais très minoritaire dans la majorité, de se faire entendre. Évidemment, moi je n'ai pas d'informations là-dessus. Je serais quand même étonné que tout cela se soit fait dans le dos de François Bayrou.
Non, c'est des proches de Bayrou. Hein. C'est des proches de Bayrou.
Merci pour cette précision, Jérôme Chapuis. Maud Guillaumin. Céline Boisson, il y a un vrai malaise dans cette aile gauche de la majorité, mais dans le même temps, on entend beaucoup parler d'un pôle de gauche, des députés de gauche sur l'immigration, sur en préparation des municipales autour de Jean-Yves Le Drian. On n'est que dans de l'effet d'annonce ou on est dans quelque chose qui existe véritablement, une partie de la majorité qui peut-être ne se sent pas entendue?
Moi, je pense que c'est clairement ça. Enfin, Emmanuel Macron, il est à la moitié de son mandat. C'est, pour moi, je le vois comme une pression d'une partie de la majorité auprès de Emmanuel Macron, lui disant la politique depuis le début du quinquennat était plutôt à droite. Il faudrait peut-être penser aussi à la gauche. Il reste
une façon de dire on a été sage.
C'est une façon de se faire entendre et de lui mettre la pression pour la deuxième partie du quinquennat et on se donnera rendez-vous aux prochaines élections, il me semble. Et enfin, moi, ça me rappelle exactement au même moment, à mi-mandat de François Hollande, où il y avait eu les mêmes manifestations à un moment donné. Et j'espère qu'il l'entendra.
Maud Guillaumin.
C'est vrai qu'avec la baisse des APL, l'ISF, il y a quand même toute l'aile gauche qui a quand même souvent un peu avalé des couleuvres. L'interview là dans Valeurs Actuelles a quand même été très très mal acceptée. Donc en effet, ce tournant social, il est attendu par cette aile gauche. Il faut voir aussi que eux-mêmes se sentent parfois un peu mal à l'aise parce qu'au départ, La République En Marche, c'était pas du tout aussi marqué à droite. Hein. Même dans les enquêtes d'opinion, c'était beaucoup moins marqué à droite qu'aujourd'hui. Donc eux-mêmes ont du mal à se positionner. Ils attendent donc cet élan, ce pas social.
Juste un mot sur ce pôle de gauche. Effectivement, non seulement Emmanuel Macron suit ça de près, mais il a même donné son accord pour que cet été, déjà, ça se forme autour de Jean-Yves Le Drian. Mais Jean-Yves Le Drian, il n'a pas vraiment le temps. Il dit qu'il n'est plus tout à fait parmi les jeunes pousses de l'équipe gouvernementale. Et donc, c'est surtout Olivier Dussopt, ancien socialiste, qui est aujourd'hui secrétaire d'État à Bercy, qui va un peu piloter cette courant de gauche, on va dire, de la majorité. Et je peux vous dire que ça s'est fait avec l'accord, la bénédiction d'Emmanuel Macron, qui lui a dit à plusieurs reprises, vas-y, fonce, tu as mon soutien, parce qu'il le faut, parce qu'il sent bien qu'il en a besoin.
Emmanuel Macron, quand il dit les 3%, c'est un dogme d'un autre temps ou un débat d'un autre siècle, c'est aussi un message envoyé à cette aile gauche, je suis prêt à laisser filer les déficits.
Effectivement, face à certaines mesures qui peuvent froisser, face à la réforme des retraites ou d'autres, face effectivement à cette interview de Valeurs Actuelles ou autre, qui peut satisfaire un pôle de droite, mais qui irrite fortement celui de gauche, vous donner. Alors certains disent des miettes, non, c'est aussi symboliquement très fort. Il dit, attendez, je vous ai entendu, et la rigueur budgétaire, ce n'est plus l'alpha et l'oméga de la politique économique de la France. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Maintenant, il faut voir dans les faits.
Dans quelques instants, le mea culpa inédit de la ministre de la Justice, non pas sur la question des déficits, mais sur celle de la gestion pénale des cas de féminicide et des violences conjugales. D'abord, le rappel de l'information, il est 20h50 sur France Info, Steven Goyer nous a rejoint.
Un couple isérois de 75 ans retrouvé mort à son domicile. La justice suspecte une intoxication au monoxyde de carbone. Privé d'électricité, le couple avait installé un groupe électrogène à l'intérieur de son domicile pour se chauffer pendant la nuit. Ce soir, le courant reste coupé pour près de 33 000 foyers. Il voulait s'en prendre à un temple de la consommation. Une trentaine de gilets jaunes a provoqué la fermeture des Galeries Lafayette sur les grands boulevards à Paris cet après-midi, un an jour pour jour après le début de la mobilisation sociale. Une décision début décembre sur la distance minimale entre habitation et épandage de pesticides, annonce de Didier Guillaume. Le gouvernement évoque pour l'instant une distance de 10 mètres pour les cultures hautes et 5 mètres pour les cultures basses, a poursuivi le ministre de l'Agriculture. 9 civils tués dans des frappes aériennes russes dans le nord-ouest de la Syrie, attaque menée contre des positions djihadistes dans la province d'Idleb.
Depuis 2011, le conflit syrien a fait plus de 370 000 morts et des millions de déplacés. Et puis en Coupe d'Europe de rugby, le Racing 92 fait tomber les tenants du titre. Victoire 30-10 contre les Saracens. Montpellier s'incline de son côté 33-20 face au Connacht. Défaite aussi pour Lyon contre Northampton 25-14.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neïla Latrousse.
La réponse de la justice face aux violences faites aux femmes n'est pas satisfaisante. C'est la ministre de la Justice elle-même qui le dit dans le journal du dimanche. 80% des plaintes transmises au parquet restent sans suite. Et quand cette violence va jusqu'à l'assassinat, jusqu'au féminicide, on constate eh bien, dans deux tiers des cas que les victimes avaient saisi la police ou la justice. Céline Boisson, c'est un mea culpa inédit de la part des institutions et de la ministre de la Justice, en l'occurrence.
C'est inédit et c'est exemplaire.
Nécessaire ?
Nécessaire, oui, nécessaire, évidemment. Je pense que il y a un phénomène que, enfin, c'est le mouvement MeToo en fait. Hein, depuis ce mouvement-là, on a vu une prise de conscience, une sensibilisation de l'ensemble des parties prenantes hein, de la société, absolument réelle, une multiplication en fait de revendications, des associations qui se sont créées, en tous les cas une libération de la parole et le fait que le gouvernement ait fait une étude qui est montré ces chiffres-là, qui est montré que dans un tiers des cas des femmes qui subissent des violences, elles ne parlent pas, qu'il y ait 200 000 femmes, je crois, violentées, hein, qui subissent des violences conjugales chaque année, il y a seulement 30 000 plaintes. Donc ce mea culpa et cette libération de la parole ne peut être que positive, ne peut être que être perçue comme exemplaire et doit favoriser la mise en place de choses très concrètes parce que dans d'autres pays et notamment en Espagne, des choses extrêmement concrètes ont été mises en place qui a permis, je crois si je me trompe pas, de tripler le dépôt de plaintes. Donc c'est possible.
Et un mea culpa salué par Ernestine René, membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, pionnière de la lutte contre les violences faites aux femmes sur France Info, elle appelle à aller plus loin.
D'abord, c'est déjà important de faire le constat. Première chose, on dira. La deuxième, c'est que maintenant, eh bien, il faut les actes suivent, bien sûr. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que lorsqu'une victime vient révéler des violences, vient déclarer des violences, la première chose, c'est de la croire. Face à la présomption d'innocence de l'agresseur, il faut qu'on ait de l'autre côté une présomption de crédibilité. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'elle a révélé les violences, bien sûr, il faut absolument appliquer un principe de précaution et donc la protéger.
Jérôme Chapuis, que vous évoquez ces pistes dressées par Ernestine René, présomption de crédibilité.
Alors, il faut faire très attention parce que, évidemment, la marge est ténue quant à la présomption d'innocence. Mais évidemment, ce sont des pistes qui sont examinées en ce moment. Le 25 novembre, nous aurons des réponses du gouvernement. Un mot quand même sur cette transparence de la ministre. Je pense que c'est au-delà de la question de savoir si voilà, c'est un mea culpa. En tout cas, c'est une transparence qui est louable. Parce que pour commencer à résoudre un problème, il faut le nommer. On parle de féminicide depuis assez peu de temps dans notre société. On a aujourd'hui des chiffres qui sont effectivement absolument hallucinants. 88 cas ont été examinés. C'est une étude qui finalement, c'est 88 personnes qui ont été violentées, qui sont mortes ou qui ont fait l'objet d'une tentative d'homicide. Mais il y a des choses extraordinaires, enfin absolument hallucinantes qu'on apprend dans cette étude. Seul un tiers des condamnations sont assorties d'un suivi socio-judiciaire. C'est dire à quel point il y a de la marge et c'est dire à quel point effectivement il faut agir sur beaucoup, beaucoup de niveaux.
Effectivement, Nicole Belloubet qui explique que les dispositifs juridiques existent et qu'ils ne sont pas forcément...
Souvent pas appliqués.
Pas toujours appliqués. Est-ce que ce n'est qu'un problème de formation, Maud Guillaumin, ou est-ce que les modalités d'action, en fait, recouvrent un spectre beaucoup plus large?
Non, si on voit par exemple ce qui peut se faire en Espagne pour pousser les femmes à verbaliser les violences quand par exemple elles arrivent à l'hôpital et qu'on voit hein, que c'est pas des violences en tombant dans l'escalier comme elles peuvent parfois le dire parce qu'elles n'osent pas parler. Donc forcée à donc violer le secret médical en dénonçant ce genre de fait, en les forçant aussi à aller voir des associations.
C'est ce qu'évoque
la ministre. En effet, ce serait vraiment, en tout cas, un pas très nouveau et qui permettrait d'aller beaucoup plus loin. Après, de la question de comment on gère, comment d'un seul coup, quand la police est appelée, qu'elle se retrouve dans une situation comme j'écoutais le cas pour la mort de Sylvia, comment agir? Là, c'est vrai qu'il faut reprendre toutes les procédures, parce que plein de fois, les commissariats sont assez, ils ne savent pas comment réagir, ils viennent une fois, deux fois, et puis voilà, ça mène à rien.
Ça, c'est effectivement un des autres points qui avait été évoqué par le ministre de l'Intérieur, hein, la question de la formation dans les commissariats. Et c'est l'occasion de rappeler un numéro, le 3919, la ligne d'écoute gratuite et anonyme pour les victimes de violences conjugales. Jean-Baptiste Marteau, vous êtes journaliste, je le rappelle, politique à France Télévisions. C'est la grande cause du quinquennat, la lutte contre les violences faites aux femmes. On sait qu'Emmanuel Macron va se déplacer, a priori, pour la fin du Grenelle. Est-ce qu'il va parler? Est-ce que du côté de l'Élysée, on prépare un rendez-vous particulier? On
sait qu'il y a effectivement ce rendez-vous de la fin du mois, effectivement, pour annoncer tout un tas de mesures. Mais au-delà de ces mesures, c'est vrai que c'est une prise de conscience générale des classes politiques, mais aussi de toute la société qui était nécessaire. On avait l'impression que c'est le sujet que personne ne savait comment gérer, ne savait même pas comment en parler. Quand vous vous rendez compte, dans quasiment tous les cas, les voisins sont au courant, les amis sont au courant, le médecin parfois effectivement était au courant, on l'a constaté, et il y avait ce silence absolument dingue. Et j'ai lu dans le JDD ce matin ce cas de Julie Dwipt, mort le 3 mars en Corse, 34 ans, mère de deux enfants. Elle avait porté plainte 6 fois contre son ex-conjoint. 6 fois. Eh bien, ça n'a pas suffi, ça n'a débouché sur rien. Elle est morte comme 135 autres femmes cette année. Donc là, ça demande une prise de conscience générale de toute la société.
Et samedi prochain, marche contre les violences sexistes et sexuelles à l'initiative du collectif Nous Toutes le 25. Les conclusions du Grenelle des violences faites aux femmes. Merci à nos informés. Céline Boisson, communicante et directrice associée de l'agence Nude. Jean-Baptiste Marteau, journaliste politique de France Télévisions. Maud Guillaumin, journaliste indépendante et documentariste. Jérôme Chapu, rédacteur en chef à La Croix. En un mot, votre une de demain?
On sera sur les femmes précisément, mais alors nous lançons une séquence sur les femmes et Dieu, c'est La Croix. Les femmes sont-elles l'avenir de Dieu? C'est un sujet d'actualité, puisqu'on ne parlera pas seulement du voile. Vous verrez, ça va durer 3 semaines.
Merci beaucoup, à découvrir demain en kiosque dans La Croix. Bonne soirée sur France Info.